La France bouge avec vous, Raphaël Duchemin, mais avec aussi des coiffeurs français qui ont décidé de réutiliser les cheveux coupés. C'est la solution du jour d'Elisabeth Assayag.
Ah ouais, donner une seconde vie aux milliers de tonnes de cheveux coupés chaque année. Elisabeth, c'est la solution avec les coiffeurs justes.
Oui, c'est une association. Savez-vous que les cheveux représentent 50% des déchets jetés par un salon de coiffure et chaque année en France, entre 3000 et 4000 tonnes sont jetées. Une fois coupés, nos cheveux sont parfois recyclés, par exemple pour des perruques, mais ils sont très souvent jetés à la poubelle. Avec l'association Les Coiffeurs Justes, se faire couper les cheveux devient un geste en faveur de l'environnement. On va voir comment justement avec vous Thierry Gras, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Les Coiffeurs Justes. Vous êtes coiffeur dans le Var depuis près de 30 ans. Et justement, dans votre salon, vous collectez tous les cheveux que vous coupez.
C'est ça.
Comment
en
ça
fait,
marche
L'idée, c'était de ne plus les jeter parce que c'était donc un déchet supplémentaire. Et en fait, je pensais, moi, que quelqu'un avait déjà fait ça, parce que ça fait 30 ans que les clients nous posent la question.
Que faites-vous de mes cheveux?
C'est ça. C'est une question qui est récurrente, que tous les clients posent. Et en fait, du coup, j'ai monté l'association avec... j'ai été aidé par les fonds européens.
En 2015
En 2015, c'est ça. Pour plus jeter cette matière. Cette matière, en fait, qui est un déchet au départ, mais finalement est une matière première, qui a des qualités énormes, donc qui est lipophile, hydrophile, imputrescible, incompressible... Et solide aussi. Donc en fait, ces qualités-là, un laboratoire nous a aidés pour dégager la qualité principale qui serait la plus apte à dégager des revenus pour des associations.
Alors, c'est quoi cette qualité que possède la fibre capillaire? Elle retient des polluants?
Le cheveu est absorbant. Ça veut dire que le cheveu, en fait, les hydrocarbures se posent dessus. Ils ne rentrent pas à l'intérieur. Donc du fait, ils sont lavables. Ça veut dire que ces filtres-là sont posés dans la mer, dans des collants, en fait, pour les tenir. Et ils peuvent être lavables. Donc, on récupère les hydrocarbures une fois que c'est lavé. Et ils peuvent servir entre 6 et 10 fois.
Donc, avec ces cheveux, vous fabriquez ce que vous appelez, vous, des boudins,
hein,
anti-pollution.
Ça. Voilà, avec l'aide de collants recyclés. Donc, il y a deux méthodes. Il y a le boudin en collant recyclé, mais il y a aussi des... c'est comme un tapis, en fait, avec une tisseuse, qui, là, va servir pour... ça va faire des tapis absorbants pour les garages automobiles, pour les zones industrielles, pour les pompiers, en fait, à tous les niveaux. Voilà. Et on est aussi en train de développer un petit collant, en fait, comme une chaussette. Et là, ça serait pour les... comment ça s'appelle les,
Alors, on peut vous aider, mais...
Ouais, les bateaux de plaisance. Mm-hmm. Parce qu'en fait, les bateaux de plaisance se retrouvent avec des huiles en fond de cale. Et en général, ils vont au large et
ils dégazent.
Voilà. Même les petits. Et l'idée, c'est de faire une toute petite éponge pour qu'eux puissent absorber leurs hydrocarbures dans le bateau, les laver à quai et rejeter beaucoup moins d'hydrocarbures.
Alors vous avez monté cette association en 2015, mais l'idée, c'est aussi que tous les coiffeurs vous rejoignent.
C'est
et
ça,
adhèrent
et c'est ce
à
qui
votre
se passe.
Projet.
Et c'est ce qui est en train de se passer. En fait, à l'heure actuelle, là, au jour d'aujourd'hui, on est 1200 adhérents. On a en général environ 100 adhérents par semaine supplémentaires. L'idée finale, c'est que ça soit une économie circulaire. Pour l'instant, on nous envoie les cheveux à l'association, mais l'idée, c'est que ça reste tout à fait
en
sur
local,
place,
oui.
En local. Et l'idée aussi, c'est que les grandes marques de cosmétiques, ça commence déjà, financent les sacs et les envoient, eux, à leur coiffeur.
Hélène ?
Alors, moi, je suis vraiment fan de votre solution parce que c'est de l'économie circulaire. Déjà, c'est de l'économie circulaire locale. C'est-à-dire, ce sont les déchets des uns qui deviennent une ressource, là, en l'occurrence, une solution magnifique parce qu'en plus, elle permet de dépolluer l'océan.
C'est ça.
L'enjeu, selon moi, c'est de massifier. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai déjà parlé de cette solution à Euraseo, à Olivier Millet. Il peut vous mettre en contact avec Desange et avec Franck Provost. Donc voilà, pour massifier. Mm-hmm. Et ma question, c'est, est-ce que vous n'iriez pas aussi demander ça à ceux qui font du coiffage de chiens et de chats?
Alors là, par contre, on nous a effectivement déjà posé la question. Mais là, on a un problème vétérinaire. C'est qu'en fait, les toiletteurs rasent les animaux sales. Alors que nous, les cheveux sont coupés
déjà...
propres.
Donc, serait possible, mais uniquement si le procédé était inversé, c'est-à-dire toilettage d'abord et coupe ensuite.
Voilà, ouais. Mais ça, c'est encore délicat parce que, si vous voulez, nous, le métier de coiffeur, en fait, on a des lois qui nous interdisent de couper des gens qui ont des poux. C'est-à-dire que le sac, quand il part, il est nickel. Alors que dans les toiletteurs, il peut y avoir des puces et là, ça risque d'être très compliqué.
Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de déploiement avec ces cheveux? Parce que vous avez dit que ça avait énormément de vertus. Mm-hmm. Est-ce que vous avez déjà d'autres produits en tête?
Ah oui, ça, en fin de vie, une fois qu'ils ont été utilisés comme filtre, ils peuvent servir comme isolant. Aussi, ça veut dire qu'en fin de vie, on ne les jette encore pas. Et c'est un très bon isolant phonique et thermique. Donc on envisage de le mettre sous le carrelage. Parce que les gens ne sont pas prêts encore à les avoir en isolant dans le plafond, au-dessus de la tête.
Pour les coiffeurs qui nous écoutent, il faut adhérer à votre association Les Coiffeurs Justes pour pouvoir envoyer les sacs de cheveux. Comment
ça
marche?
En fait, pour l'instant, les coiffeurs deviennent adhérents à l'association. C'est 25€ à l'année de date à date. Nous, on leur envoie un autocollant d'identification. On les référence sur le site. Et c'est une adhésion de don. C'est défiscalisable. Et pour l'instant, nous leur envoyons les sacs.
Hélène,
ce qui est intéressant, c'est que les clients des coiffeurs peuvent demander à leur coiffeur de rejoindre votre association.
C'est ça.
Ça vient du client.
Oui. Et c'est même pire, enfin encore mieux, c'est qu'on a des particuliers qui récupèrent leurs cheveux sur les brosses et qui nous envoient des courriers à l'association.
On peut faire ça.
Oui.
On peut faire ça. Donc je peux demander mon sac et participer à l'opération.
C'est la peine de jeter
sans le sac, même une enveloppe, parce que c'est vrai que
oui,
la quantité personnelle, c'est tout petit.
Cheveux,
mais voilà, moi je reçois des gens, même des nattes de femmes qui ont coupé leurs cheveux, qui les ont, parce que comme c'est imputrescible, ça reste des années dans le placard.
Ah oui, je vous
nous
confirme,
les envoient,
j'ai la mienne de quand j'étais
c'est
petite,
ça.
Effectivement.
Et c'est énorme.
Ça s'appelle Les Coiffeurs Justes. C'est donc une association qu'on vous invite à rejoindre. Merci d'être venu nous en parler. C'était La Solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 12h57.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on va jouer. Tiens, aujourd'hui, les catalogues de Noël sont déjà arrivés dans vos boîtes à lettres. On va vous aider à choisir français, bien sûr. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
3921 et Twitter, venez nous rejoindre dans La France qui bouge. C'est le moment où les catalogues de Noël arrivent dans nos boîtes à lettres et pendant les vacances. C'est vrai que c'est une des activités qu'adorent nos enfants, choisir, cocher ce qu'ils vont demander comme cadeau en fin d'année à mettre sous le sapin. Alors, on a décidé de vous aider à sélectionner des jouets français. Vous allez voir qu'il y en a. Bonjour Mickaël Matifaz.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Pink Fizz. Vous êtes basé du côté de Toulouse et vous vous êtes lancé, vous, en 2018. Vous êtes d'ailleurs un des coups de cœur, je crois, du salon Kid Expo, hein, qui se tient en ce moment à Paris. Et ça a une importance, vous êtes d'une famille nombreuse, parce que c'est ça le déclic. Vous avez 5 frères et sœurs et c'est vous l'aîné.
Oui, c'est un petit peu le précurseur, effectivement, parce qu'on va y venir. Mais là, en fait, il s'agit de jeux de société que j'ai créés. Donc, c'est la société Pink Fizz, dont je suis le fondateur. Donc c'est que des jeux très rapides en fait, qui se jouent à vitesse rapide, c'est-à-dire sous la forme de jeux d'ambiance, à partir de thématiques comme les langues, le calcul mental, les lettres, etc.
Alors là, j'ai BeWiz, l'anglais en jeu.
Oui,
c'est
parce
ça
que vous avez dans les mains justement BeWiz, c'est justement le jeu qui vient d'être élu par les familles étoile du jouet de l'année.
Étoile du jouet et qui est aussi en 2019 médaillé au concours Lépine.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, par exemple, j'ai un petit sablier, j'ai des cartes et puis j'ai des lettres.
Alors, il y a plusieurs façons de jouer, en fait. Bon, c'est une prise en main vraiment très rapide, hein. Donc, on n'est que sur des jeux de cartes, à titre d'info. Pour le BeWiz, en fait, il va falloir aller chercher des lettres le plus vite possible. Mm-hmm. On va chacun hériter d'un mot à traduire en anglais, en espagnol, en portugais, en fonction du jeu. Parce qu'il y a toute une déclinaison de langues, en fait, qui va sortir bientôt. À savoir que donc une personne va récolter le mot chien, il va falloir aller chercher le D, le O, le G, donc de dog au milieu
dog,
de la table,
oui.
Etc. On va chacun avoir un mot, un verbe attribué, et c'est un système de jeu ultra rapide. Donc c'est le premier à traduire son mot qui va gagner la manche en fait.
C'est allé très vite parce que vous êtes lancé en 2016 dans la conception et dans l'édition de jeu. Pourquoi en 2016? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un déclic particulier qui s'opère chez vous?
Bah là, c'est vraiment effectivement un changement littéral de vie. À l'origine, j'étais pas du tout dans ce domaine, hein. J'étais dans l'art floral, je faisais de l'événementiel, dans le mariage, etc. Donc, j'ai un père fleuriste, etc. Et effectivement, j'ai voulu me donner les moyens de monter ma société d'édition. Donc, j'ai passé 2 années à plein temps, bon, plus que prévu, hein, pour le coup, avec le concours d'une trentaine de personnes, des illustrateurs, des professeurs, etc. De façon à développer suffisamment de jeux qui sont tous orientés scolaires pour monter ma société d'édition.
Oui, parce qu'il y a aussi, juste à côté, Class Time. Qu'est-ce que c'est Class Time? C'est aussi un jeu rapide.
Qu'est-ce que c'est Class Time? Alors, Class Time, vous avez 3 jeux différents. Vous avez Class Time des thèmes, Alors là, ça va reprendre le système du petit bac ou le baccalauréat qu'on faisait à l'école.
J'adore.
Alors là, franchement, il fait l'unanimité. Hein. Il marche vraiment très, très bien.
Ça m'étonne pas.
Vous avez les thèmes qui défilent sur des cartes, en fait. Hein. Il n'y a pas de stylo, pas de feuille. Mm-hmm. Il va falloir trouver des mots liés animal terrestre, partie du corps humain, en B, par exemple, etc. etc. Donc, voilà, on énonce les mots.
Je suis moins fan de celui sur le calcul mental, hein, je vous le dis tout de suite.
Ah, d'accord, oui, d'accord, je comprends.
Et il y en a un aussi autour des lettres. Vous vous êtes financé tout seul?
Oui, je me suis autofinancé, effectivement, oui.
Et vous êtes déjà distribué un petit peu partout? Comment ça se passe? Vous êtes très présent dans la région autour de Toulouse et chez les spécialistes du jeu, en fait, du jeu de société.
Alors, effectivement, en particulier à Toulouse, hein, vu que j'y suis basé,
je suis basé là-bas.
Vous avez la plupart des magasins spécialisés de Toulouse donc, qui me distribuent. Après, c'est beaucoup des magasins en ligne, comme le groupe Philibert, par exemple. Vous avez Esprit Jeu, vous avez Didacto aussi, qui est spécialisé dans le scolaire. Qui est très bien. Après, vous avez aussi Lacoste DBO. C'est un groupe de papeterie qui est très important et qui est vraiment que je conseille. Quoi.
Elisabeth, c'est important hein, de parler du jouet ou du jeu français. Mmh.
Parce que le jouet, oui, bon. De manière générale, c'est pas ça.
Bah oui.
Mais non, c'est pas vraiment ça. C'est un marché qui a connu de vives turbulences, notamment l'année dernière. Jusqu'à 2018, c'était très positif, ça se portait bien. Mais l'année dernière, il y a eu des restructurations des grosses enseignes hein, que l'on connaît, comme Toys R Us ou la Grande Récré. Vous avez eu des achats de Noël qui ont été fortement perturbés par le mouvement des Gilets jaunes. Résultat, c'est un marché, le marché du jouet, qui a reculé de 5% par rapport à 2017, tant en volume qu'en valeur, pour atteindre un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros. Rien que sur le dernier trimestre, qui représente traditionnellement plus de la moitié des ventes annuelles du secteur, le repli est énorme, moins 7%.
Hélène Valade, notre coach. Alors, ce sont des jeux, puis en même temps, on apprend. Enfin, c'est de l'apprentissage motivant, attrayant, etc. Et comme vous avez la main sur les sujets de vos jeux, est-ce que vous pourriez envisager de faire des choses sur le climat, par exemple? Parce qu'on n'arrive pas à avoir un vrai apprentissage des basiques du climat. Donc, moi, je suis prête à collaborer avec vous pour créer un jeu comme ça.
Ok, alors là, vous parlez en particulier du changement climatique, j'imagine.
Oui, voilà.
D'accord.
Ouais.
Alors ça, c'est une bonne question, effectivement. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Hein. J'adore les challenges dans le genre. Donc, ce sera avec plaisir. En tout cas.
On va relever ce challenge alors.
D'accord, d'accord.
Oui, parce que vous êtes déjà en train de travailler sur d'autres projets, notamment sur d'autres traductions de vos jeux dans d'autres langues. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding.
Oui, effectivement. Alors,
pour le portugais et pour l'allemand.
Exactement, exactement. Alors, à l'heure actuelle, vous avez effectivement, à propos des Biwis, donc le jeu qui a été élu par les familles, donc Kid
Expo. En français et en anglais.
Aujourd'hui, en disponibilité, on a l'anglais en jeu et l'espagnol en jeu. Et vous avez effectivement le portugais en jeu et l'allemand en jeu qui sortent sur le site ulule.com.
Bientôt,
c'est au mois de... En avant-première, alors c'est ce matin que tout a été activé.
Eh ben voilà. Eh ben voilà, exprès pour nous. Et vous pensez déjà développement international?
Oui, tout à fait. Que ce soit la ligne des trois Class Time, ils sont déjà prêts, enfin façon de parler, quasiment prêts, on va dire, en version anglaise, espagnole, allemande. Et après, à propos des jeux de langue, ils sont déclinables en toute langue, en fait. Hein. Donc, il y a des langues à venir comme le russe, le japonais, l'arabe, etc., qui vont arriver bientôt. Mais après, on peut décliner dans tous les sens, c'est-à-dire anglais, allemand, espagnol, portugais, etc. Voilà.
On reste ensemble et on continue à parler jeux et jouets français aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et je vous l'ai dit, c'est Kid Expo en ce moment et c'est aussi l'occasion de découvrir des jouets traditionnels et des innovations. Celle qui arrive est très utile pour les enfants et aussi pour leurs parents. A tout de suite.
Le mercredi, c'est le jour des enfants, surtout que c'est les vacances scolaires en ce moment. Alors on va jouer dans La France Bouge avec vous, Raphaël Duchemin et vos invités. Et comme d'habitude, bien sûr, La France Bouge est ouverte à tous. Alors venez nous rejoindre au 39-21, 50 centimes la minute, ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, on parle jeu, on parle jouet, parce que c'est Kid Expo en ce moment. Et il nous est déjà tous arrivé hein, dans un parc ou dans un magasin de jouets, tiens par exemple, de perdre quelques secondes des yeux nos enfants. Dans la plupart des cas, on les retrouve dans les minutes qui suivent, mais c'est pour que ça n'arrive plus
que Mathieu Lim a eu l'idée de KiWip. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Depuis 5 ans maintenant, vous travaillez, vous et votre associé, à la création d'une montre connectée pour les enfants, parce que ce que je viens de raconter, en fait, ça vous est arrivé à vous et à lui aussi.
Tout à fait, c'est des expériences personnelles qui nous ont conduit à créer KiWip. Moi, pour ma part, c'était effectivement ma fille que j'ai égarée dans un grand parc d'attractions. Et pour mon associé, dans une grande surface.
Du coup, vous vous êtes dit, il faut un moyen de les retrouver rapidement. Vous n'aviez pas forcément envie de leur mettre un traceur, parce qu'il y a des moyens qui existent. Donc, vous avez commencé à réfléchir et à inventer un système.
Tout à fait. On a d'abord regardé ce qui existait sur le marché. Nous avons trouvé des trackers, des choses qui étaient uniquement à sens unique, donc vues par les parents. Et ce n'était pas quelque chose qu'on souhaitait pour nos enfants. C'est pourquoi, avec les compétences que nous avions, nous avons essayé d'imaginer un produit ludo-éducatif qui soit vraiment capable d'être apprécié, adapté et compris par les parents et également accepté par les enfants.
Vous avez, on parlait des étoiles, vous reçu l'étoile du jouet en 2016. Et on a vu la petite vidéo sur Europe1.fr qui montre qu'effectivement, c'est très interactif. C'est-à-dire que l'enfant s'en sert, j'allais dire, presque comme d'un talkie-walkie avec ses parents ou avec ses grands-parents.
Oui, c'est comme un talkie-walkie 3.0. Avant tout, c'est un outil de communication qui est du coup cette alternative au téléphone portable que nous souhaitons proposer. Et qui permet réellement aux enfants de gagner en autonomie grâce à la montre.
Donc c'est une montre, elle donne l'heure, mais elle peut aussi géolocaliser l'enfant. C'est ça la grande différence.
Oui, les parents ont une application parentale, et sur l'application parentale, c'est eux qui décident quand l'enfant a le droit d'utiliser, parce que nous avons également développé un mode classe qui permet aux parents de rentrer l'emploi du temps des enfants, et pendant l'école, la montre, effectivement, comme on l'a dit, c'est une simple montre qui ne fait que donner l'heure.
Elisabeth,
c'est à partir de quel âge cette montre pour les enfants ?
On a principalement des enfants entre 7 et 11 ans qui la portent.
Mais on les égare plus souvent entre 0 et 6, enfin 3 et 6 aussi. Hein.
Vous avez effectivement plusieurs enfants qui sont un peu plus petits qui la portent également.
Voilà. Vous avez une nouveauté que vous avez ajoutée qui est une fonction porte magique. Alors ça fait rêver hein, quand on entend ça. C'est tout simplement pour permettre aux enfants de rentrer chez eux sans avoir le trousseau de clés qu'ils peuvent eux aussi égarer. Ça veut dire que vous avez travaillé avec une start-up française pour qu'on n'ait pas besoin de confier les clés de la maison aux enfants. Ils ont un mot magique à dire et la porte s'ouvre.
En tant que parent, effectivement, laisser ses clés à ses enfants et les perdre, au bout d'un moment, ça coûte un petit peu cher. Donc on a essayé d'imaginer quelque chose de vraiment ludique et intéressant. C'est-à-dire que depuis la montre, du coup, les enfants connaissent un mot magique et connectés à une serrure connectée, ils sont capables d'ouvrir la porte de la maison et les parents sont notifiés à chaque fois que leurs enfants rentrent. Ça permet d'apporter une sécurité supplémentaire et aux enfants de ne plus perdre leurs clés.
Oui, vous avez travaillé en partenariat avec une autre start-up française, hein, The Keys, c'est ça ?
Exactement. Nous avons travaillé en partenariat avec la start-up The Keys qui font
les serrures.
Et nous avons développé tout ce qui était reconnaissance biométrique vocale.
Hélène Valade, notre coach.
Si j'avais eu cette montre connectée quand ma fille avait 10 ans, je pense que ça m'aurait évité un certain nombre d'angoisses. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire que ça a un côté un peu Big Brother. Donc, c'est quoi le mix pour éviter quand même le côté intrusion de la part des parents et de permettre aux enfants de s'épanouir en autonomie, en liberté ? Comment vous réagissez à ça ?
Eh bien, effectivement, le côté Big Brother, c'est une discipline justement qu'on propose aux parents de prendre en considération. La volonté de la montre n'est pas du tout de fliquer un enfant, mais au contraire de lui donner de l'autonomie. C'est pourquoi, grâce à la montre, les parents ont pu donner aux enfants la possibilité d'aller d'abord chercher du pain, tout simplement, ensuite, petit à petit, aller à l'école tout seul. Et justement, grâce du coup à toutes ces fonctionnalités, on se rend compte, finalement, que l'enfant devient plus autonome et plus responsable en ayant moins peur grâce à la montre.
Mathieu, vous la portez cette montre, hein, elle est
oui,
à votre poignet, donc elle marche comment ? Là, évidemment, elle a simplement la fonction d'heure, mais si vous voulez communiquer avec votre fils ou votre fille, vous pouvez ?
Oui, tout à fait. En fait, avec la montre, justement, vous avez un carnet de contacts avec les contacts qui sont rentrés depuis l'application parentale. Les enfants, ils se prennent un petit peu comme des agents secrets, ils ont juste à appuyer et ils parlent directement sur la montre.
Ils parlent dans l'écran de la montre.
Dans l'écran de la montre, comme ça, effectivement.
Ils voient par exemple l'avatar de la maman.
Oui.
C'est des avatars, c'est
exactement,
pas des photos.
Exactement, c'est des
hein.
avatars, oui.
Et ils lui parlent.
Oui, ils voient l'avatar de la maman, l'appel se lance et ils lui parlent. Mais le même principe pour envoyer des messages vocaux également.
Vous avez fait une levée de fonds, vous allez en faire une ?
On est effectivement en phase de levée de fonds pour aller dans ce développement européen que nous recherchons, pour également aussi renforcer nos équipes techniques et commerciales.
Combien vous cherchez d'argent aujourd'hui ? De quoi vous auriez besoin pour ce fameux développement ?
Alors, on lance justement notre série A, donc on va tabler sur 1,5 million, 2 millions en fonction du besoin et du fonds qui nous rejoindra.
Et la montre, elle coûte combien ?
La montre aujourd'hui, elle coûte 149 euros. Et nous avons notre forfait, puisque nous sommes également une société de service, qui coûte 9,99 euros en appel illimité, data illimité, France et Europe.
Ça veut dire que si on est en abonnement, on a une déduction, c'est ça ou...
Oui, en prenant le forfait Kiwib, du coup, vous avez une réduction sur le prix de la montre et un prix spécial durant le Kid Expo. La volonté réellement de Kiwib, c'est d'aller vers l'autonomie et la mobilité pour les enfants.
On reste ensemble et on continue à parler jeux et jouer aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et on va revenir à la tradition, le jouet en bois est de retour d'ailleurs. Il n'est jamais vraiment parti, on verra ça avec Jouet Cabois. A tout de suite.
La France Bouge continue avec vous, Raphaël Duchemin, mais avec aussi vos invités venus nous parler des nouveaux jeux pour nos enfants. C'est le dossier du jour auquel vous pouvez participer. Vous aussi, rejoignez-nous sur l'hashtag Europe 1 ou au 39-21, 50 centimes la minute.
Quand nos parents étaient enfants, ils avaient tous des jouets en bois, puis le plastique est arrivé. Mais aujourd'hui, un retour en arrière s'opère. Bonjour Christophe René.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Jouets Cabois. C'est du Made in France. Vous êtes installé à Saint-Sauveur-des-Landes et vous existez depuis 2008. Pourquoi est-ce que vous avez eu, vous, l'idée et l'envie de vous lancer sur ce marché-là ?
En fait, à la base, une orthophoniste qui suivait mon fils avait trouvé un système de jeu qui était assez sympa et puis je m'en suis inspiré et puis du coup, je l'avais acheté et puis après j'en ai fait moi directement.
Un jeu qui n'était pas français ?
Un jeu qui n'était pas français, qui n'était pas fait que des bois PEFC et qui était beaucoup plus cher. Et donc, du coup, on a développé ce jeu qui a été, je dirais, le numéro un. Et après, on a développé tout ce qui était une petite gamme au niveau des jeux d'éveil de construction en bois naturel et labellisé PEFC.
Vous avez eu donc cette idée en 2008, vous vous lancez. Vous avez à cœur de travailler avec du bois français. C'est vrai qu'on a de la ressource dans notre pays.
Oui, on a la chance d'avoir cette belle ressource qui est très bien gérée dans notre pays, même si en Bretagne, c'est un peu le contre-exemple parce qu'on est un petit peu moins boisé qu'ailleurs. Ceci étant, nous sommes avec mon associé, lui, à une série familiale et nous avons trouvé des idées de développer tout ce qui était nouveau débouché pour le bois, notamment le jouet.
Alors, vous nous avez amené ici, dans les studios d'Europe 1, quelques-uns des exemples des jouets que vous fabriquez. Là, par exemple, on a 200 pièces plus un livret de réalisation pour construire sa cabane ou autre chose d'ailleurs.
Ou autre chose en fait, deux applications, ça peut être à la maison mais ça peut être également au milieu scolaire où on est très très présent à travers notamment des personnes qui ont été citées tout à l'heure sur le bureau des écoles dans des catalogues. Et l'idée c'est d'accompagner également soit sur un plan pédago avec des livres que nous éditons. On a vendu 20 000 exemplaires du précédent ABC des constructions, par exemple, ou les ateliers Jouets Cabois, ou éventuellement d'autres jeux qui viennent se prolonger. Donc on peut laisser libre pour l'enfant et aussi bien accompagner pour un travail pédago à l'école.
Ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est que vous faites mettre en boîte par des ESAT, c'est ça ?
Oui, on a une démarche RSE. Alors, au-delà d'utiliser des
ça,
bois...
Ça va plaire à Hélène Valade.
PEFC, nous travaillons avec 25 équivalents temps plein qui travaillent tout au long de l'année. Ce sont trois ESAT qui sont dirigés par des gens absolument extraordinaires. Et c'est un travail qui est très répétitif, donc très sécurisant pour eux. Or, c'est un travail qui est presque pénible de par son côté répétitif pour les personnes qui sont à la scierie. Et donc, la complémentarité fait qu'on a trouvé une évolution et c'est des gens qui sortent entre 70 000 et 80 000 produits par an quand même.
Vous avez développé plusieurs marques. Vous faites des jeux de plein air, ouais. Vous faites des jeux de construction, vous faites des jeux d'éveil. C'était important d'avoir une gamme la plus large possible pour montrer justement l'étendue de ce qu'on peut faire avec le jouet en bois.
Oui, on a eu la chance d'avoir notamment la distribution de jouets qui nous a pas mal soutenus dans le cas de la marque Jouet Cabois, et qui lance, j'en profite au passage, une semaine du jouet français avec toutes les enseignes qui adhèrent.
Ce sera au mois de novembre.
Voilà, absolument. Et aujourd'hui commence dans toutes les enseignes, à vrai dire, cette semaine du jouet qui est sur les catalogues aussi, où on incite les gens à aller acheter français. Ensuite, on a créé une association qui s'appelle l'Association des créateurs fabricants de jouets français, où on a notre salon traditionnel, où on a une cinquantaine d'exposants en novembre avec toute la distribution. Et aussi bien la grande distribution classique, des super hypermarchés, que Internet, etc., qui jouent le jeu, et qui ont bien compris ce que souhaitait le consommateur, qui est un papa, une maman, qui est un grand-père, une grand-mère, et qui souhaite acheter des produits un peu sympas pour ses enfants.
Elisabeth, c'est encore un secteur de niche ou pas aujourd'hui le jouet français?
De moins en moins quand même, hein, parce qu'il avait fait penser au début au bio, vous vous souvenez, le bio dans l'alimentaire, le jouet français c'était un petit peu ça. À la base c'est un achat engagé, quand on sait que le jouet ce sont 75 000 tonnes de déchets par an en France et 80% des jouets sont en plastique et fabriqués en Chine. Donc un désastre pour l'environnement. Donc ce jouet français, c'est le contraire de tout ça. Il est généralement dans une belle boîte en carton, sans plastique. Il a du sens. Il pourra même avoir une espèce de mission intergénérationnelle, hein, c'est-à-dire qu'on pourra en y jouer oui, avec ses grands-parents, avec ses parents et le transmettre.
Dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il peut se faire une vraie place dans le monde du jouet?
Alors déjà, lors de Noël dernier, où je vous disais tout à l'heure, ça, le marché
que c'était, compliqué.
C'était compliqué, ben, le jouet français, lui, a tiré son épingle du jeu au pied du sapin, avec des marques emblématiques. Hein, vous aviez Je Jura, les peluches Calous, Moby, les moulages Mako, le Double hein, d'Asmodée,
qu'on
nous
a
connaissons
reçu,
ici
oui.
à la France Bouge, les poupées Corolle ou le Milborn. Le secteur parie sur cette différenciation par rapport à ses concurrents internationaux.
Hélène Valade, notre coach.
Donc vous n'utilisez pas de plastique, vous faites attention, ou presque pas, d'après ce que je vois.
On a un tout petit peu ici.
Un tout petit peu en haut. Vous faites attention à votre chaîne d'approvisionnement qui est responsable, vous avez des labels pour ça et vous savez que c'est important parce que la déforestation, c'est une cause du réchauffement climatique. Vous faites donc de la transition écologique et j'ai envie de dire de la transition juste parce que vos prix sont accessibles.
Oui, on a un certain nombre de concurrents sur les mêmes produits qui viennent soit du Maroc, soit de Chine. Et étonnamment, on arrive avec des marges raisonnables à être dans un prix accessible, avec une marge aussi pour le distributeur qui lui fait partie de la chaîne et qui l'a bien compris. Donc tout l'objectif, ça a été Made in France, particulièrement produit en Bretagne, qui est une association à laquelle nous adhérons également. Ça a été écolo sur un mode RSE de production, de commercialisation, de logistique, mais également ces bois PEFC. Et enfin, un prix accessible pour que le jouet soit partagé par le plus grand nombre.
Bravo. Vous êtes 25, c'est ça, aujourd'hui?
25 équivalents temps plein. Alors, à savoir que, par exemple, les différentes personnes qui interviennent en ESAT peuvent travailler 2 heures par jour, 4 heures par jour. Mais au cumul de tout cela, ça fait 25 personnes dans un environnement qui est une série familiale qui compte à peu près 40 personnes, mais avec d'autres activités liées au bois.
Et vous allez commencer à vous développer, vous aussi, à l'international? C'est prévu? C'est quelque chose que vous avez en tête?
Absolument. On fait d'ailleurs pour la 3e année consécutive le salon de Nuremberg, qui est la grand-messe mondiale du jouet. Nous avons déjà des marchés sur l'Allemagne, la Suisse, un petit peu l'Angleterre. Bon, en ce moment, c'est un peu tendu. Très fortement dans les dom-toms, qui n'est pas à l'export, mais c'est un peu la même logique par rapport à la logistique.
Pour en tout cas l'acheminement des produits, oui.
Absolument. Des nouveaux produits, notamment l'ABC des constructions.
Ouais, qui est ici, sur europe1.fr.
Le 3, le 4, qui vont sortir dans peu de temps, notamment pour les écoles. Et puis, nous allons développer tout un schéma d'une petite entreprise qui fait de l'animation dans les supermarchés, dans les écoles, dans les séminaires d'entreprise avec le bois. Et on a même fait un phare de 8 mètres de haut avec produits en Bretagne dans le cadre de l'AG il y a 2 ans de cette association.
On reste ensemble et on continue à parler jeux et jouets français aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend. Venez, je suis sûre qu'il y a de grands enfants qui nous écoutent. 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. C'est la France qui bouge avec vous et avec nos invités.
Vous êtes avec Raphaël Duchemin pour La France bouge sur Europe 1. On découvre de nouveaux jeux français pour nos enfants ce mercredi. Alors si vous en connaissez et que vous avez des questions pour nos invités, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, et vous serez avec nous en direct et avec Michael Matifas de Pink Fizz, avec Mathieu Lim, cofondateur de Kiwip Technology, avec Christophe René, fondateur de Jouer Cabois, notre coach aujourd'hui Hélène Valade et évidemment Elisabeth Assayag qui est à mes côtés. Tiens Elisabeth, je crois que vous avez trouvé pas mal de marques de jouets français.
Oui, alors par exemple, vous avez les Mini Bondes que nous connaissons aussi ici à la France Bouche. C'est une marque de jouets responsable, écologique, fabriquée en France pour les enfants à partir de 3 ans et au-delà de respecter l'environnement. 1% des bénéfices sont destinés à faire voyager des enfants qui ne partent jamais en vacances. Vous avez aussi les jouets libres, ce sont des jeux créatifs, écologiques, aussi fabriqués en France. Alors là-bas, tout est tracé, hein. Les éléments en bois sont confectionnés dans le Jura, par exemple, ou les billes qui servent à fabriquer les jouets sont fabriquées artisanalement près de Limoges, dans la dernière usine de billes traditionnelle en Europe. La laine est filée près de Montluçon. Tout est français.
Puisqu'on est en train de parler fabrication, vos boîtes de jeux, Michael, sont fabriquées en France. Tout est français dans ce jeu.
Alors, quasiment tout est français, sauf la fabrication. Bon, côté fabrication, je suis resté sur l'Europe, en fait, hein. Donc, je fais fabriquer auprès d'une société très connue en Pologne, qui fabrique de la très bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix, en fait.
Parce que ça aurait eu un impact sur le
exactement,
prix.
Exactement, voilà. On n'est pas sur des tirages, des volumes énormes en démarrage. Donc, mon souhait, c'était vraiment de donner accès à des jeux, à des tarifs plutôt très raisonnables. Donc, pour les Class Time, pour information, ils sont à 15€ en prix de vente et les Biwi sont à 20€.
Aujourd'hui, si vous pouviez les faire fabriquer en France, ce ne serait qu'après, finalement, de gros tirages, c'est ça ?
Je pense que oui, ou alors bon, il faut peut-être que je gratte un peu plus, on va dire.
On ne sait jamais, quelqu'un vous entend peut-être et va peut-être vous faire des propositions.
Avec grand plaisir,
on serait ravis de vous fabriquer
ici. Si ça peut être du 100% français, il n'y a aucun souci.
On a une question justement pour vous Mathieu, concernant la fameuse montre Kiwip. C'est Nicolas sur Twitter qui nous demande la fonction pendant les cours. Est-ce qu'on peut, nous parents, si on est de l'autre côté, entendre la maîtresse par exemple ?
Alors pas du tout. En fait, le mode classe, effectivement, c'est le mode classe. C'est que l'enfant reste concentré en cours.
En fait, c'est le mode avion.
C'est une sorte de mode avion qui ne fait que donner l'heure. Voilà, tout simplement, pour ne pas déranger l'enfant, pour qu'il reste concentré en cours.
Elisabeth,
que faites-vous des données que vous récoltez de l'endroit où se trouvent les enfants ?
Je suis ravi que vous me posiez cette question. En fait, chez Kiwip, on a la particularité d'avoir nos propres serveurs sécurisés, justement pour cette protection des données des enfants qu'on ne revend pas du tout. Elle ne sert que au bon fonctionnement de l'entreprise et à la géolocalisation pour l'améliorer. Et après 15 jours, elles sont détruites.
Hélène Valade, notre coach, est-ce qu'elle a des questions pour l'un de nos trois invités, Christophe René, Mathieu Lim et Michael Matifas ?
Alors, vous-même sur les jouets cabois, comment vous faites pour expliciter votre démarche à ceux à qui vous les vendez ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a un mode d'emploi, il y a quelque chose qui permet de valoriser le fait que c'est hyper responsable dans le procédé de fabrication ?
Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est un travail de très longue haleine. Faire partager entre les gens qui nous aident à la fabrication, entre le distributeur et au bout du compte le client final. Je crois que c'est très important de voir, c'est le client final qui devient consommateur. Il est aujourd'hui sur un tas de schémas, etc., où il essaie de faire bien sans forcément en avoir les possibilités. Et là, les distributeurs commencent à très, 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 très bien l'entendre. Et que ce soit de la grande distribution, on a des partenaires dans le cadre de notre association, mais nous, sous la marque Mecabois, que ce soit de la grande distribution, les spécialistes du jouet, les écoles, tout le monde comprend aujourd'hui, les achats des écoles se font en mairie. Les mairies demandent à ce qu'on ait quand même des choses propres, si possible locales, dans un Small Business Act qui permet d'acheter le plus près possible pour des questions évidentes.
Donc vous travaillez avec les écoles un petit peu partout en France aujourd'hui ?
En France, dans les DOM-TOM, un petit peu à l'étranger, parce que notre distributeur allemand est spécialisé dans les écoles. Et on est dans les trois plus gros catalogues que sont, je ne vais peut-être pas les citer à l'antenne, mais qui sont surtout les bureaux des maîtresses aujourd'hui et qui nous ont fait confiance.
Je crois qu'on a une question au 3921 ou sur notre site internet de Stéphanie de Cherbourg qui nous demande si les montres Kiwip sont compatibles avec les enfants qui sont atteints de certains troubles, notamment les troubles autistiques.
Alors effectivement, on a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont soit handicapés, soit ont des troubles qui sont aujourd'hui porteurs de la montre et qui les aident dans leur quotidien.
Par exemple, qui les aident comment ?
On a des enfants du coup qui ont des alertes justement des tâches qu'ils doivent effectuer dans la journée.
C'est donc le parent qui programme les tâches,
qui les rentre
pour qu'ils puissent les signaler au fur et à mesure.
Oui, et nous avons également des enfants qui ont des troubles de l'espace et du coup qui se perdent. Et justement, grâce à justement cette géolocalisation, les parents les retrouvent beaucoup plus rapidement pour éviter des situations dramatiques.
Hélène ?
Mais alors, pourquoi l'Allemagne a interdit la vente des montres connectées aux enfants là ? C'est mystérieux pour moi quand je vous écoute. Je trouve ça vraiment intéressant et important, surtout. Donc, pourquoi cette décision en Allemagne ?
Alors, il y a une polémique, effectivement, en Allemagne pour les montres qui permettaient aux parents d'écouter à distance, justement.
Ce qui n'est pas possible avec la vôtre.
Ce qui n'est absolument pas possible avec la montre
KiwiWatch. C'est important de le dire, cette différence.
Oui, ouais. Et nous, la montre KiwiWatch est autorisée en Allemagne. Parce que entièrement conçu et développé en France.
Messieurs, on va retrouver vos différents produits au Salon Kid Expo, qui est un des endroits évidemment où le jouet français est mis à l'honneur. Vous le disiez, il y a aussi cette semaine qui démarre. Pour que le jouet français se porte encore mieux, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, Christophe René ?
Il faut que les consommateurs se mobilisent, que les distributeurs entendent la mobilisation des consommateurs et que ça aille dans une dynamique de bon sens, tout simplement.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci d'être venus en direct sur Europe 1 dans La France qui bouge.
Merci.
Il est 16h48.
Europe 1.
Et vous restez avec nous. Dans un instant, on va faire connaissance avec les Maquilas. L'histoire remonte au 17e. Une famille en fabrique encore au Pays Basque. C'est Maquila Encar Bergara, l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, La France bouge. Raphaël Duchemin.
Suite et fin de La France bouge avec Raphaël Duchemin. Il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est Maquila Enciar Bergara. Bonjour Lisa Bergara.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette fabrique de bâtons basques. Vous êtes la 7e génération. Tout a commencé dans votre famille en 1780. Ce bâton, c'est le bâton de marche de vos ancêtres. Il est avec nous dans le studio d'Europe 1. Comme il y en avait finalement dans la plupart des régions de France, qu'est-ce qui fait que chez vous, il est resté?
Alors, on a la chance au Pays Basque d'avoir gardé une culture qui est aujourd'hui très importante avec la langue, le sport, la pelote basque et tout le patrimoine qui va autour, l'architecture aussi notamment. Donc, on pense que c'est aussi cet attachement aux racines qui a permis de garder le maquila dans la culture vivante. Parce que c'est ça qui est important en fait avec ce bâton de marche qui date du XVIIe siècle, c'est qu'il fait encore aujourd'hui partie de la culture vivante.
Et vous êtes toujours, vous, avec cette fabrique installée là où tout a commencé finalement? À la Ressort, près d'Espelette, c'est ça?
Oui, voilà. En fait, aussi loin qu'on arrive à remonter...
Au centre du village.
Hein. Oui, dans nos archives, on a toujours été donc, sur la place du Fronton, qui est aussi une place importante puisque c'est la place où on joue à la pelote. Et on a ce travail de mémoire à l'atelier. C'est-à-dire que si vous venez visiter l'atelier, vous pouvez voir qu'on a conservé les établis d'époque. Donc, il y a des photos de mon arrière-arrière-grand-père au même établi où on travaille aujourd'hui. Donc, c'est un peu un voyage hors du temps aussi.
Vous avez retrouvé, je crois, dans les archives, le premier, finalement, de votre famille qui a commencé la fabrication, c'est Gratien.
Alors, mon grand-père me tirerait les oreilles si on disait ça. Voilà. Officiellement, on remonte à 7 générations et on remonte à Gratien Thier. Après, on peut se douter qu'avant lui, il y avait déjà des gens dans la famille qui fabriquaient des maquilas, puisque comme on travaille le bois, le métal et le cuir, on ne peut pas s'inventer comme ça, fabricant de maquilas, en claquant des doigts.
Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, de si particulier, ce bâton basque? Il est taillé dans un bois bien particulier déjà?
Voilà, donc on travaille le bois de néflier. C'est le travail le plus long pour faire un maquilas, puisqu'il faut une vingtaine...
Vous allez le choisir dans la forêt?
Voilà, c'est ça. On va donc le choisir dans la forêt. On va le scarifier sur pied. Ensuite, on va attendre 6 mois. On va le couper, pour la faire courte. Donc là, il y a environ 10 ans de travail sur cette partie-là. Et ensuite, il y a 10 ans de maturation, ce qui va nous permettre de lui donner sa coloration et la patine.
Et c'est fabriqué sur mesure,
toujours,
en fonction de la taille de la personne.
Oui, voilà, parce que c'est un bâton de marche qui va se caler dans le creux de la main. Donc, pour qu'il soit adapté à la personne, il faut forcément avoir son poids et sa taille.
Vous avez parlé de votre grand-père. Il y a eu des générations dans votre famille qui se sont succédées, mais il y a des personnes qui sont importantes. J'ai envie de parler de votre arrière-grand-mère,
oui,
Marie-Jeanne, et puis de votre grand-père,
oui,
qui est toujours là, hein,
oui,
qui vous surveille,
ma mère aussi, du
votre
coup,
mère aussi.
Ah, surveille, c'est...
Qui vous surveille du coin,
oui,
qui est là.
Et c'est une génération où on a besoin de travailler, sinon... On vit plus,
mais,
quoi.
Mais entre nous, il était un peu inquiet, votre grand-père, quand même. Parce qu'il s'est demandé, mais qui va reprendre mon entreprise ?
Inquiet, je ne suis pas sûre. Parce que ma mère...
Parce que vous n'étiez pas du tout partie pour ça.
Moi, j'ai toujours dit que je ne reprendrais pas. Et c'est vrai que ma mère est partie à la retraite à 70 ans. Donc, il était temps que quelqu'un reprenne. Mais en fait, je voulais vraiment faire ce retour par choix et pas par obligation. Parce qu'aujourd'hui, on est des générations où on a envie de faire un travail qui nous épanouit et dans lequel on trouve du sens. Et en fait, il a fallu finalement que j'aille ailleurs, que je vois d'autres choses pour me dire c'est à la ressort que je vais donner du sens à ma vie.
Vous avez le label EPV, bien sûr, entreprise du patrimoine vivant. Vous avez repris l'entreprise en février. Je me tourne vers notre coach. C'est une très belle histoire.
C'est une très belle histoire. C'est une preuve de l'artisanat français qui marche bien. Je suppose que vous pouvez vendre ces bâtons aussi comme finalement un ambassadeur de la culture française à l'international. Il y a des expositions universelles bientôt. Est-ce que voilà, vous ne pourriez pas en vendre aussi dans ce cadre-là parce que ça marque la culture française?
Alors, ça serait avec plaisir hein, si on veut nous inviter sur l'exposition universelle. Nous, on ira avec plaisir. C'est sûr que le maquila fait partie des cadeaux honorifiques. Par exemple, on est un cadeau du protocole de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça veut dire que quand il y a des personnes importantes qui viennent en Nouvelle-Aquitaine, ils vont recevoir un maquila. Après,
on les trouve d'ailleurs au Salon du patrimoine.
Oui, voilà. Donc là, je suis sur Paris à l'occasion du Salon international du patrimoine qui se trouve au Carrousel du Louvre jusqu'à dimanche.
On aurait pu passer des heures à parler de ces maquilas, parce qu'il y a du bois, parce qu'il y a du cuir de chevreau, parce qu'il y a du métal qui est travaillé. Et vous en faisiez des bijoux pour vos oreilles hein, quand oui, vous étiez petite. On pourrait raconter leur histoire pendant des heures, on est d'accord?
Oui, mais je crois que ce n'est pas ce qui est prévu aujourd'hui.
Je crois que ce n'est pas ce qui est prévu et on vous invite évidemment à aller découvrir sur le site évidemment l'histoire de ce maquis-là. Merci Lisa Bergara d'être venue nous en parler. Merci Hélène Valade d'avoir été avec nous, notre coach aujourd'hui. Elisabeth et Justine,
à demain.
On se dit à demain.
À demain Raphaël et dans un instant ce sera Christophe Fondelatte.